Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi. C'est arrivé aujourd'hui.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On est le 13 septembre et direction l'année 2007 dans notre rétrospective. Aujourd'hui, la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones a été adoptée. Donc c'était le 13 septembre 2007. Elle demeure un pilier central pour comprendre les droits des peuples autochtones et les engagements des États envers la justice, la dignité et la reconnaissance. Aujourd'hui, nous explorons ce texte fondamental et son adoption récente par l'Australie avec François Vantôme.
Cette déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est née d'un constat lourd. Des siècles durant, les peuples autochtones ont subi des politiques d'assimilation, l'expulsion de leurs terres et une dévalorisation systématique de leur culture et de leur savoir. Le droit international dans sa forme antérieure ne répondait pas pleinement à ces réalités. En somme, il s'agissait de faire un pas vers la justice, la réparation et la réconciliation tout en favorisant une relation entre États et peuples autochtones qui soit plus équitable et durable. En fait, c'est une déclaration normative adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 avec une majorité de 143 pays pour, 4 contre, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, et 11 abstentions.
To all the indigenous representatives from around the world, you have traveled long distances, physically, but also in the soccer, but you're right.
Cette déclaration n'impose pas en soi une loi nationale, mais elle pose un cadre universel pour reconnaître, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux des peuples autochtones à travers le monde. Son objectif est de fournir une référence claire pour les États et les acteurs internationaux afin que les droits des communautés autochtones soient pris en compte dans toutes les sphères de la vie publique. Culture, éducation, santé, emploi, langue et terre, mais aussi le droit de disposer d'eux-mêmes et de participer pleinement aux décisions qui affectent leur avenir. Le texte insiste aussi sur le droit des peuples autochtones à maintenir et développer leurs institutions politiques, leur culture et leur langue, ainsi que sur le droit à leurs terres et ressources. Autre pilier essentiel, le droit à la santé, à l'éducation, au travail et à des conditions de vie qui respectent leurs pratiques culturelles et leurs savoirs traditionnels. En résumé, elle invite les gouvernements à repenser leurs pratiques et à dialoguer avec ces communautés autochtones pour construire des sociétés plus inclusives et respectueuses de la diversité. Sa force réside dans sa dimension morale et son rôle d'orientation. Elle guide les révisions politiques, oriente les projets qui touchent les territoires autochtones et soutient les mécanismes de réparation et de reconnaissance des injustices passées. Intéressons-nous au cas de l'Australie et de sa reconnaissance tardive. Selon les pays, les principes de cette déclaration peuvent être intégrés dans des lois et pratiques existantes ou rester à adapter. Dans tous les cas, le texte demeure une référence puissante qui guide l'action publique et mobilise la société civile en faveur des droits des peuples autochtones. Alors, lors du vote 2007, l'Australie s'est opposée à la déclaration. cette position reflétait des préoccupations majeures liées à la propriété foncière, à la souveraineté nationale et à l'impact potentiel du FPIC sur les droits et les mécanismes constitutionnels du pays. Le FPIC signifie « consentement libre, préalable et éclairé ». C'est un acronyme pour désigner le consentement des peuples autochtones avant tout projet touchant leurs terres ou leurs ressources. Les inquiétudes du gouvernement australien portaient aussi sur la manière d'appliquer ces principes dans un cadre juridique et politique déjà largement établi avec ses propres protections et procédures. Le tournant est survenu dans les années qui ont suivi dans un contexte politique et social différent. Entre 2008 et 2009, l'Australie a connu une série d'étapes marquantes en matière de réconciliation et de droits autochtones. Les excuses pour les générations volées, les réformes foncières et les discussions publiques sur la reconnaissance culturelle et les droits des populations autochtones. Sous le gouvernement travailliste de Kevin Rudd, l'Australie a déclaré son soutien à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est en 2019 qu'elle a entrepris d'harmoniser certaines politiques nationales avec les principes de la Déclaration, tout en affirmant que ces ajustements devaient rester compatibles avec sa constitution et son cadre légal. On écoute le docteur Tom Kalma, Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner.
The world over, we celebrate the tribal cultures of a society, the history of a society, but it's also recognised internationally that we are the longest continuing surviving culture in the world. And, you know, that's very important to recognise and to respect and to value and, you know, and to celebrate. I think here our history is a bit shameful. We've been denied access to basic citizenship rights and human rights up until very recently. We've got a lot of catch-up to do.
L'exemple de l'Australie rappelle que le chemin peut être long, que les avancées nécessitent des choix politiques courageux, des dialogues continus et une volonté durable de réparer le passé tout en avançant ensemble.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tu es né avant l'été, à la toute fin du printemps. Mes jambes presque dorées, nous avions eu un beau printemps. Tu es né avant l'été, il restait encore du vent. En quittant la maternité, j'ai trouvé Paris trop bruyant. La saison des pieds dans l'eau, de l'indice 20, 30 ou 0. Des moustiques tigres, des panachés, des cigales et des peaux bronzées. La saison des tomates mozza, des kilos en trop, des chipolatas, du rosé bien frais et des premières fois. Ce sera toujours ta saison à toi. Tu es né avant l'été, depuis je pense au climat, au monde et aux dégâts, c'est le vertige dans l'estomac. Tu es né, j'ai arrêté de fumer, te voir grandir, te regarder, je voudrais avoir l'éternité.
Et c'était Mélania Tobiana avec la chanson d'Anouk en ce samedi sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir de retrouver Pauline Maudit qui est en tournée en Australie avec le groupe MZaza. Pauline, bonjour et bienvenue sur SBS French à nouveau.
Bonjour et grand merci.
Et ça fait un petit moment que vous n'êtes pas passé sur nos ondes. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, un petit rappel de votre parcours comme compositrice, comme chanteuse, comme mentor. Vous faites beaucoup de choses.
C'est vrai que je fais beaucoup de choses. Alors, MZaza est un groupe que j'ai depuis 21 ans. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé à me lancer dans la musique que j'ai fondé ce groupe. Et c'est un groupe de 6 musiciens. On a accordéon, shakeman, il y a violon, il y a de la guitare, un peu flamenco, de la percussion et de la contrebasse, et beaucoup d'harmonie vocale aussi. Et nos influences viennent des Balkans et de la musique française aussi. Donc, beaucoup de nos paroles sont en français. Et récemment, en fait, moi, j'avais étudié la mise en scène de théâtre. Et donc, dans ces dernières années, je me suis mise à créer des spectacles, en fait, de théâtre autour de la musique de M'Zaza, entre autres. Et donc, on a créé ce spectacle « The Birth and Death of Stars ». Et on a beaucoup de chance, ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'on est en tournée partout en Australie avec ce spectacle.
Et vous faites également des tournées internationales, d'après ce que je comprends.
Oui, c'est ça. Et en fait, on a fait, en tant qu'M'Zaza, on a fait 2 tournées en Europe et on s'apprêtait à faire une 3e tournée en 2020 quand évidemment le Covid est arrivé et donc tout ça a été annulé. Et c'est un peu pour ça que je me suis retrouvée à développer ce spectacle en beaucoup plus de profondeur finalement. Et puis ensuite, en tant que musicienne, on va dire en solo, je fais aussi beaucoup de collaborations à mon propre nom. D'ailleurs, je suis en train de travailler mon premier album à mon propre nom aussi, mais je voyage aussi beaucoup en Europe depuis Covid, pour faire des collaborations dont j'ai passé 3 mois en Belgique et en France l'année dernière en tournée avec un groupe qui s'appelle l'Orchestre International du VTEX, qui a 15 musiciens dedans, avec beaucoup de cuivre et aussi des influences en fait un peu similaires à M'Zaza, donc franco-balkane avec un peu d'influence latine aussi dedans, donc c'était vraiment une super ambiance et donc aussi d'autres collaborations du coup comme ça. Donc je passe beaucoup de temps de retour en France et en Europe ainsi qu'en Australie.
Et d'après ce que je comprends, vous êtes généralement basé au Queensland, à Brisbane, je pense.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, à Brisbane.
Et là, vous allez venir vers le sud, vous irez en Tasmanie et ensuite vous serez à Melbourne dans le cadre du Melbourne Fringe Festival. Parlons de ce festival en Tasmanie, c'est le 19 septembre.
Alors, en Tasmanie, nous allons faire notre spectacle The Birth and Death of Stars à un festival qui s'appelle The Junction Arts Festival. Et ce festival se situe à Launceston. Et donc, en fait, le spectacle, donc plutôt théâtral, qu'on amène là-bas et aussi à Melbourne, c'est un spectacle qui a des projections visuelles d'animation qui ont été faites par une artiste finlandaise qui s'appelle Laura Matikainen. Et j'ai aussi travaillé avec un metteur en scène de théâtre qui a un super jeu de lumière. Et en fait, c'est comme un concert au niveau de la musique, mais il y a aussi de la narration assez poétique. Donc c'est une ambiance un peu différente qu'un concert. C'est vraiment plus dans le thème ou dans l'ambiance du théâtre, on va dire. Donc on va faire ce spectacle. Et aussi, moi, une de mes grandes passions, c'est travailler avec les communautés variées, en fait, quand on voyage. Et donc, on fait beaucoup d'ateliers, souvent gratuits. Et là, en fait, le festival m'a aussi demandé de travailler avec des musiciens, des compositeurs, de jeunes compositeurs, des danseurs locaux pour développer un spectacle d'un quart d'heure. Donc, on va aussi faire ce spectacle, du coup, 3 fois pendant le festival, 3 jours d'affilée. Et donc, pour moi, c'est super parce que, j'ai passé du temps, du coup, à Launceston, à connaître un peu l'endroit et les musiciens locaux et à travailler avec eux il y a un mois et demi. Et maintenant, je peux ramener mes musiciens d'M'Zaza qui me sont très chers et qui vont donc travailler avec la communauté locale pour faire ce spectacle en plus de notre concert à nous.
Et donc, pour les gens de Melbourne, ils seront gâtés parce que vous donnez 5 concerts dans le cadre de ce Melbourne Fringe.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est notre première fois à un Fringe Festival. Et on a eu beaucoup de chance. En fait, on a été choisis pour faire partie de ce qui s'appelle les Program Venues. Donc, c'est les salles dont Melbourne Fringe fait leur programmation. Ouais. Donc, on va être au Trade Hall à Carlton pendant 5 soirs d'affilée, justement, oui, du 1er au 5 octobre. Une heure assez raisonnable, on va dire. On va pouvoir se coucher tôt. C'est à 18h30 tous les soirs, sauf, sauf le dimanche. C'est à 17h30. et ça, je pense que ça va être un super cadre et une super opportunité aussi pour nous, parce que c'est vrai que on a passé beaucoup, beaucoup de temps focalisé sur notre export en Europe. Avant, on tournait beaucoup à Melbourne. Là, on y repassait vite fait l'année dernière, mais c'est vrai que d'avoir cette chance de pouvoir vraiment passer du temps et de reconnaître, enfin de de retrouver aussi la communauté musicale, la communauté française à Melbourne. C'est quelque chose qui nous enthousiaste beaucoup, en fait.
Pauline, parlez un petit peu de... Je suis fascinée par ce focus que vous avez sur Women in Jazz. Vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. J'ai travaillé un peu dans le jazz. Je m'appelle pas une chanteuse de jazz parce que pour moi, souvent, les gens dans le jazz, c'est tout ce qu'ils font et c'est toute une vie d'études. Mais j'ai eu de la chance de jouer avec beaucoup de musiciens dans le jazz. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai réalisé qu'il y avait très peu de femmes instrumentalistes dans le jazz qui étaient à l'avant de leur propre groupe. Disons que par rapport au nombre d'hommes dans cette situation, c'était souvent les femmes. Il y avait une musicienne peut-être dans un groupe et souvent c'était le groupe de quelqu'un d'autre. Donc j'ai créé ce programme, on va dire, ou cette série d'ateliers où en fait je me suis dit que ce que je pouvais faire c'est réunir des femmes musiciennes de jazz mais d'états et de territoires différents et qu'on pouvait se retrouver ensemble et chacune prendre notre tour en fait à être à la tête du groupe et ensuite je faisais des partenariats avec des salles ou des festivals où on présentait en fait le résultat et j'ai eu la chance de faire ça plusieurs fois au festival Osmanouche à Brisbane Festival, mais aussi à un très joli festival qui s'appelle Signet Folk Festival. Ouais. Et ça a toujours eu un super succès en fait et surtout c'est au niveau des résultats, enfin les femmes qui ont participé me disent que ça leur a donné vraiment la confiance en fait d'avoir cette expérience d'être à l'avant on va dire avec un groupe qui était vraiment derrière eux où c'était délibéré en fait d'avoir cette opportunité, cette expérience, ça veut dire qu'elles ont pu ensuite démarrer leur propre groupe, mettre leur propre composition en avant et donc ça c'est super à voir pour moi, suivre leur parcours c'est fantastique. D'ailleurs à Melbourne il y a une musicienne qui a fait partie de ce programme qui s'appelle Flora Carbo qui est saxophoniste et qui a une super carrière. Ouais, donc c'est vraiment génial de pouvoir les retrouver aussi quand je voyage.
Pauline, parlez un petit peu de vos projets d'avenir. Vous aviez mentionné tout à l'heure que vous êtes en train d'enregistrer un album en solo, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc je m'apprête à enregistrer cet album sûrement à la fin de l'année. Donc je suis en train de finir mes compositions et après... Mon intention est de créer un spectacle aussi de théâtre autour pour que la musique puisse être présentée dans des festivals, mais aussi dans des théâtres. Et pour l'instant, l'instrumentation, il y a encore des choses à découvrir, à choisir, on va dire. Mais je sais que beaucoup des chansons vont avoir un quatuor derrière, donc il y aura violon, viola et violoncelle. Et sûrement des instruments en plus. Donc ça, c'est tout une nouvelle aventure pour moi, mais j'ai déjà présenté certaines des chansons au Brisbane Festival l'année dernière. Et donc, ça m'a permis de les retravailler, de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et puis de les connaître mieux aussi, de redécouvrir mes propres compositions finalement. Donc ça, c'est un gros projet, et je vais m'y pencher quand même pas mal en fin d'année après cette tournée de Nzaza. Mais Nzaza aussi, du coup, avec mes voyages en Europe, j'ai fait des co-compositions là-bas avec le compositeur de l'Orchestre International du VTEX, avec d'autres musiciens, et donc je continue à écrire pour un album de Nzaza qui va gentiment se faire. On aime bien faire les choses de façon, on va dire, assez organique, on les laisse se mener, hein, mais je pense que du coup on est en bonne direction pour avoir un nouvel album dans les deux prochaines années, on va dire, ou 18 mois, ça prend du temps. Et puis, on essaie de remonter aussi une tournée vers l'Europe pour Nzaza pour l'été européen prochain.
Pauline Moody, merci infiniment d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS. Et je rappelle aux gens peut-être aussi qu'on peut tout découvrir sur paulinemoody.com, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et aussi mzaza.com, donc M-Z-A-Z-A. Si les gens veulent plus d'informations par rapport au concert à Melbourne ou ailleurs. Et puis, venez nous dire bonjour après le concert.
Merci infiniment et à très bientôt sur SBS en français.
À très bientôt, merci bien.
Tu avances et je recule, je passe toujours quand tu es sorti pour me chercher au coin de la rue, dans un café où je suis plus. Tu mets toutes nos vérités dans un avion de le papier plié, intercepté par un pigeon qui l'ajoutera à sa bourse.
M'Zaza, Pauline Maudit et le groupe M'Zaza et cette chanson parallèle. Vous aurez la chance de pouvoir la voir à Melbourne, comme elle nous l'a dit dans cette interview, du 1er au 5 octobre. Et courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
À l'occasion de la tournée australienne du Cirque du Soleil, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Gentilini, acteurs dans la troupe, pour évoquer les secrets et les inspirations de leur nouveau spectacle, Corteo. Stéphane, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Le Cirque du Soleil revient en Australie pour 2025 avec Corteo. Dans Corteo, la scène centrale offre une expérience unique au public, car pour la première fois dans l'histoire du Cirque du Soleil, la scène est placée au centre de l'arène. Et chaque moitié du public fait face à l'autre moitié. Qu'est-ce qui a inspiré ce dispositif à double face?
Je pense que Corteo est vraiment comme un hommage au cirque traditionnel. Donc je pense que Daniele avait l'envie de retrouver l'aspect chapiteau, donc le public qui se fait face des deux côtés, mais en même temps, il voulait les entrer comme de chaque côté de la scène pour avoir une sensation comme d'une vie qui se défilait. Parce que Corteo, l'idée de Corteo, c'est un clown qui imagine ses funérailles. Donc, dans l'univers de ce clown, les funérailles sont un moment magnifique. C'est le meilleur moment pour retrouver toute sa famille, ses amis d'enfance, ses amours, tous ses amis acrobates avec qui il a fait la tournée pendant des années. Enfin, c'est... Lui, il le voit d'une façon très positive et un moment très beau de retrouver tout le monde, d'organiser ses funérailles.
Et vous-même, vous êtes clown et acteur. Est-ce que c'est vous qui jouez le rôle de ce personnage central?
Oui, tout à fait.
Wow, donc ambiance garantie, quoi. Ce dispositif spécifique de la pièce, en quoi cela influence-t-il la performance et la connexion avec les spectateurs par rapport à une scène traditionnelle?
Moi, au début, de penser que la scène allait être placée au centre, comme ça, et d'avoir du public comme à droite et à gauche, je pensais que ça allait être un grand défi. Et en fait, ça devient quelque chose de super dynamique, de jouer pour des gens des deux côtés. Ça apporte quelque chose de vraiment très dynamique. Et je pense qu'on arrive comme ça à avoir plus de proximité, la sensation que les gens sont plus proches de nous, du coup, je pense que c'est vraiment un dispositif qui nous permet d'avoir encore plus de connexions que dans un placement plus classique de théâtre ou même de chapiteau.
Et Corteo, comme vous l'avez évoqué, se déroule entre la vie sur Terre et le ciel.
Oui.
Comment, avec votre équipe donc créative, avez-vous abordé la représentation visuelle, émotionnelle et théâtrale de cet univers mystérieux?
On a plusieurs dispositifs différents. Il y a des tulles qui descendent, qui sont transparents, qui nous permettent un peu de jouer comme si on regardait une image dans le passé à travers un rideau.
Oui.
Après, ces tulles ouvrent et on devient beaucoup plus dans une réalité. En même temps, on a des anges qui volent un peu partout autour de nous, qui ramènent tout le temps une sensation de, je sais pas, comme si on était observé ou comme si on se regardait d'en haut. Donc, il y a comme différents points de vue qui rebondissent entre le public qui est à droite, qui est à gauche, les acteurs qui sont au centre, les autres acteurs qui volent autour de nous et la descente des rideaux. Je trouve qu'il y a comme des sensations d'être vraiment proche, un peu plus loin et de percer tous ces murs-là pour arriver vraiment en contact direct avec le public.
Et c'est un spectacle qui a déjà fait le tour du monde. Il a été vu par plus de 12 millions de spectateurs. Quels éléments du spectacle vous semblent les plus importants et les plus intemporels et universels pour captiver un public international?
Moi, vraiment, une des grandes surprises, ça fait 2 ans là, que je suis avec eux, ça a été de la qualité de tout le travail technique qui est fait autour du spectacle. Il y a vraiment une précision chirurgicale qui est faite sur la lumière, sur le son, sur le travail de rig. Moi, c'est la première fois que je devais voler comme ça dans un spectacle et vraiment l'équipe de rig est tellement, tellement précise que tu te sens en confiance tout de suite avec eux. Toute l'équipe de qui monte la scène, tout ça, tout. C'est vraiment travailler avec une équipe qui est ultra professionnelle. Donc on se sent porté, on se sent vraiment pas si seul, même si on joue dans des grands espaces, parce qu'il y a vraiment toute une équipe technique qui nous accompagne et qui joue avec nous tout le temps, quoi.
Pour le public australien, pour cette tournée australienne, y a-t-il des touches culturelles spécifiques ou des modifications créatives pour cette tournée exclusive?
En fait, chaque fois qu'on joue Corteo, on s'amuse un peu à donner des choses, à parler un petit peu des choses qui sont propres à la ville d'où on est en train de jouer. Donc, il y a tout le temps des petites touches un peu pour amener, pour essayer de faire penser un peu aux gens que c'est aussi à eux de faire une réflexion personnelle pendant le spectacle.
Et donc, ce spectacle varie d'une ville à l'autre ou?
Non. Le script du spectacle est vraiment le même à chaque fois, mais après on s'amuse à jouer de donner le nom d'une ville à un moment, le nom d'une autre, l'équipe de foot. On s'amuse à ramener des choses qui sont un peu qui font penser que c'est un peu plus personnel pour ça.
D'accord. Et le thème de la joyeuse procession des Corteo, il a commencé avant le Covid, on a connu des années assez difficiles. Donc, comment est-il perçu par le public contemporain?
Moi, j'ai l'impression qu'il est assez intemporel, Corteo, parce qu'en parlant d'un cirque qui est déjà ancien, qui est un peu un hommage au cirque traditionnel, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris une ride, alors que ça fait 20 ans qu'il roule ce spectacle. J'ai l'impression qu'il est encore très actuel. Quand on parle d'amitié, quand on parle de souvenirs, quand on parle d'amour qu'on a perdu et qu'on retrouve et qu'on arrive à danser une dernière fois avec, je pense que tout le monde arrive à s'identifier avec ça. Et non, j'ai vraiment une sensation que c'est un spectacle qui traverse les années sans aucun problème.
Pouvez-vous partager des innovations en coulisses ou des défis techniques spécifiques à la production, notamment avec le public divisé de part et d'autre de la scène, le décor élaboré, tout ça?
Une des choses que je peux vous dire et que le public ne sait pas normalement, c'est que par exemple, comme on a les entrées d'un côté et de l'autre de la scène, dans un chapiteau, normalement, tu rentres soit au centre et du coup, tu peux passer de tous les côtés, soit dans un théâtre, c'est qu'un mur. Donc là, nous, pour passer d'un côté à l'autre de la scène, on a des petites dolies sur lesquelles on s'allonge et on roule sous la scène. Donc si vous entendez quelquefois dans le spectacle un petit roulement, c'est nous qui sommes en train de passer d'un côté à l'autre de la scène.
Ah, d'accord. Et là, ça met un peu plus d'ambiance, qu'on dirait des rats ou quel type de bruit ça fait.
C'est notre seule façon. Sinon, l'autre façon, ça serait de voler en haut sur le grid, mais
là,
non, c'est un peu plus sécuritaire et un peu plus rapide de prendre les roulettes et puis de passer
en dessous de la scène. Quoi. Ouais. D'accord. Wow. Et est-ce qu'il y a de la lumière? C'est assez bien éclairé?
Ouais. On a quelques petites lumières qui nous accompagnent. Et puis, dans un sens, on a comme deux entrées. Il y a une entrée qui va, on va dire, de upstage à downstage et l'autre qui va de l'autre côté. Non, c'est très bien organisé. Ça se passe bien.
Wow, ça c'est vraiment à voir. Et pour l'avenir, quels nouveaux horizons créatifs ou idées aimeriez-vous explorer au sein du Cirque du Soleil?
Pour l'instant, je suis très heureux avec Corteo. J'espère qu'on va avoir encore une longue tournée avec. Et sinon, ça me ferait plaisir de... Là, comme je suis venu remplacer un rôle, ça me ferait plaisir d'essayer de faire une création avec eux, oui.
D'accord. Un mot de la fin avant de nous quitter?
Eh ben nous, on est ravis d'être arrivés à Melbourne. On a eu une très belle rencontre à Perth. Du coup, on est excités pour ce soir de découvrir le public de Melbourne.
Stéphane Gentilini, en tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler donc, de cette pièce à Corteo de la troupe Cirque du Soleil.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'est en rêvant que j'ai vu le vent grimacer devant les morts célébrant notre futur arrivé. Regarde les impatients qu'on les rejoigne
Léonie Pernel, Pas de l'au-delà, une sélection RFI pour ce mois-ci. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
L'Australie va suspendre l'exploitation forestière sur une vaste étendue de forêt de la côte est en Nouvelle-Galles du Sud afin de créer un refuge pour les koalas, tentant ainsi de sauver la population locale de l'extinction. Reportage de SBS News. Il compte parmi les espèces les plus précieuses et les plus appréciées d'Australie. Mais les études montrent que si rien n'est fait, les koalas pourraient disparaître en Nouvelle-Galles du Sud d'ici 2050. Un projet du gouvernement de l'État visant à créer une nouvelle zone protégée, le parc national du Grand Koala, vise à changer la donne. Ce projet bénéficie du soutien de Dermot O'Gorman, directeur général du World Wildlife Fund Australia.
Over the last few decades, we've seen koala numbers drop. The bushfires of 2020 devastate their populations, and so creating a home for more than 10,000 koalas on the mid-north coast of New South Wales as a sanctuary to turn round koala numbers and bring them back into the bush and into communities is a really crucial part of what the Great Koala National Park will achieve.
300 000 hectares répartis sur plusieurs parcs nationaux, répartis sur la côte nord de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, ont déjà été attribués au parc national du Grand Koala. Une nouvelle annonce du gouvernement de l'État ajoute 176 000 hectares à la proposition, reliant ainsi plusieurs parcs nationaux pour créer l'un des plus grands de Nouvelle-Galles du Sud. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a déclaré que le parc va contribuer également à la protection du grand planeur, un autre marsupial menacé originaire de la région.
We can't have a situation where two decades or three decades down the track, they're gone from our communities. Future generations ask why. Well, the decision needs to be taken today to protect this most important threatened species.
Jackie Mumford, directrice générale du Nature Conservation Council of New South Wales, partage l'enthousiasme du premier.
This is one of the most significant conservation outcomes that we've seen in years. One in five of New South Wales koalas will be protected in the national park. And that's without even mentioning the tens of thousands of greater gliders and up to 100 other threatened species of flora and fauna.
Mais le projet du nouveau parc n'est pas sans controverse. Le gouvernement a déjà imposé une pause dans l'exploitation forestière à l'intérieur des limites du parc proposé en prévision de son prochain statut de parc protégé. L'industrie du bois prévient que cette mesure va entraîner une perte de 730 millions de dollars par an pour l'économie, des pertes d'emplois et des fermetures d'entreprises et une hausse du prix des poteaux électriques et des matériaux de construction. James Just est le directeur général de l'Association australienne des produits forestiers. Il affirme que l'association professionnelle a suggéré un compromis sur la taille du parc lors des consultations, mais que le gouvernement l'a ignoré.
We said you can have both. You can deliver your election commitment for a great koala national park and also have a sustainable timber industry on the other side of this. Those two options were ignored by the New South Wales government and they've gone for the largest possible park, meaning that the timber industry on the north coast will be gutted by this. That is the largest, most productive area for public hardwoods on mainland Australia.
Chris Minns affirme que la décision a été difficile et bien réfléchi.
There was a real temptation to take a compromise in relation to the size of the park, to protect more industry and narrow and shrink the size of the Great Koala National Park. In the end, my colleagues and I, we made a decision that that would be the worst of all worlds. There would be an economic impact on the industry, but we wouldn't be solving the reason for the Great Koala National Park, and that is so that there can be long-term preservation.
La fermeture de l'exploitation forestière va affecter 6 des 25 scieries de la région et entraînera la perte d'environ 300 emplois. le gouvernement prévoit de couvrir les salaires des travailleurs grâce à une allocation de type allocation chômage, de proposer des services de conseil et de formation et d'apporter une aide financière aux entreprises touchées. Un programme de 6 millions de dollars va soutenir également de nouvelles opportunités pour le tourisme et les petites entreprises sur la côte centre-nord. Cela s'ajoute aux 140 millions de dollars déjà annoncés pour la création du parc. James Just, de l'Association australienne des produits forestiers, estime que c'est loin d'être suffisant.
Funding announced today is a fraction of the cost for a decision of this size. The timber industry has put the figure for this 176,000 hectare park at $1.3 billion to taxpayers. That cost is immense and it will be felt not just in the day after tomorrow, but in the months, weeks and years to come as well.
La députée de Nouvelle-Galles du Sud pour la côte nord, Janelle Safin, vante les avantages du parc pour l'économie locale.
The Great Qala National Park also will provide an economic boon for locals and businesses alike. It will become a great tourist park, the Great Qala National Park, just like the panda parks in China. This will be our iconic park, not only in the North Coast, but in Australia.
Pour sa collègue, la ministre de l'Environnement, Penny Sharp, la création de la zone de conservation est une vision d'avenir.
We don't want to be the case where our grandkids can only see them in zoos. This is why this decision is so important. It's important for today, but it's also really important for tomorrow.
Ce reportage de Edwina Guinan de SBS News a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'était le projet Koala Park. Et si on faisait un détour dans nos archives maintenant? Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives. Ah, c'est un grand plaisir d'avoir Julie Delpy dans l'émission. Bonjour Julie.
Bonjour.
Ouais, ça va impeccable. Pour nous, ça va. Et vous, il fait beau à LA, vous êtes à Los Angeles, hein?
Oui, c'est ça. Nous, on est en fin d'après-midi. Vous, c'est le matin tôt, c'est ça?
C'est ça. On va parler d'un film que j'ai vu hier soir. Il s'appelle Lolo, qui date de 2015. C'est un film que vous avez réalisé. Parlez-nous un petit peu de ce film et de Violette, dont vous jouez le rôle.
Mais écoutez, ce film, c'est un film que j'ai réalisé, que j'ai co-écrit. C'est un projet, c'est une comédie, mais en même temps, bon, il y a de côté sombre avec le personnage de Lolo, quand même, qui est pas très rigolo, même si le film est une comédie. Et donc, j'avais envie de faire une comédie sur un d'amour qui rencontre plusieurs histoires que je voulais raconter. C'est que d'avoir quelqu'un dans sa vie destructif. Alors là, j'en ai fait l'enfant, ce qui est un cauchemar total, parce qu'évidemment, sa propre chair, on peut pas s'en détacher facilement. Mais ça aurait pu être un ex-mari, un ami, une amie, voilà. Donc, c'était aussi d'étudier comment les gens manipulateurs, destructeurs, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Enfin, quel est leur fonctionnement, etc. Ça m'amusait beaucoup d'explorer ça.
D'accord. Alors, votre fils dans le film, hein, c'est Vincent Lacoste, qu'on a beaucoup vu dans le cinéma français. C'est vraiment quelqu'un qui monte beaucoup. Et c'est vrai qu'il a... Donc, dans la rencontre que vous avez avec Danny Boone, qui joue Jean-René, il a au départ une relation qui... Bon, on a l'impression qu'il l'accepte facilement. Puis après, ça se complique tout de suite très vite, en fait.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il l'accepte. Mais au début, il joue le mec sympa, parce que c'est sa manière de piéger les gens aussi, parce que il faut expliquer que le pervers narcissique, c'est pas qu'il montre sa réelle personnalité tout de suite. Tout ce qui est sociopathe, etc., c'est énormément pendant des années même. Parfois, c'est ça qui est drôle en fait dans le film, c'est qu'il joue au mec stand et qu'il est très relax et tout ça, mais qu'en fait il est complètement destructeur, quoi.
Ouais, quand on voit l'envers du décor, c'est beaucoup plus compliqué, c'est clair.
Voilà, c'est ça. C'est pas quelqu'un, voilà, quand il vous prend, ça veut pas forcément dire qu'il vous aime bien, au contraire, quoi.
Il y a aussi, donc, Violette a une copine, Ariane, qui est jouée par Karine Viard. Elle est extraordinaire, Karine Viard, là-dedans. Vous la connaissez bien? Automatiquement, fallait la choisir. Elle est extraordinaire dans ce rôle-là.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pensé à elle en écrivant le rôle. Et au début, bon, elle était un peu, parce que elle a l'habitude de jouer des rôles principaux plutôt. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je vais t'écrire un rôle, mais je te jure, tu auras les meilleures répliques. Mon père me dit toujours qu'il ait les meilleures répliques, mince alors. Mais c'est vrai que c'était important que le personnage existe vraiment, qu'il tape fort, quoi. Et je savais aussi que tout le monde n'a pas cette capacité à dire des phrases crues, voire ce langage comme ça, très direct, et à la fois un peu à l'ancienne, parce qu'il y a quand même des termes qui m'ont bien fait marrer d'écrire.
Je pense à la scène dans le jacuzzi, hein, par exemple, hein, qui est extraordinaire. Le langage qu'elle a dans le jacuzzi au départ, en thalasso, c'est extraordinaire.
Oui, tous ces trucs de ça me masse la chatte, ça me relaxe, tout ça. En plus, c'est assez drôle, c'est un petit peu âge, j'avoue, enfin, tout le même âge, mais je veux dire, ma maman qui était très crue et très directe et qui parlait comme ça tout le temps. Et bon, malheureusement, elle est morte, mais elle avait presque à la limite un mélange entre très très argot, une grâce un peu à la Arletty, vous voyez. J'adore ce genre de femme, quoi. Et donc, absolument, j'avais envie d'écrire un personnage. D'ailleurs, tout le monde me dit que t'es beaucoup plus proche d'Ariane que l'être en personnalité. C'est vrai que quelque part, Ariane, c'est moi, quoi.
D'accord, d'accord.
D'une certaine manière. Enfin, faudrait peut-être pas que je le dise.
Mais... On va pas le dire trop fort.
Oui, pas trop.
Si on revient sur le film, donc c'est l'histoire de Violette qui part en vacances avec une copine à Biarritz. Et puis, Violette, elle est un peu malheureuse en amour. Puis, elle rencontre justement ce Jean-René, qui lui est donc bien de la province. Et après, il y a, tout se passe à Paris. Il monte à Paris.
Voilà. Bah, en fait, quand il la rencontre, il a déjà prévu j'ai à Paris pour aller travailler sur un projet que ça fait des années qu'il développe, une sorte de... Il explique dans le film d'ailleurs, voilà, qu'il travaille sur un logis particulier qui a pas mal de succès et qui en aura le plus et qui éventuellement n'en aura pas du tout, parce que bon. Et donc en fait, voilà, il se rencontre à Biarritz, elle est en thalasso, ça fait un peu chétera, et elle rencontre ce mec. Au début, vraiment, elle pense pas à une vraie histoire, plutôt juste un besoin naturel qu'autre chose.
D'ailleurs, sa copine lui dit, c'est naturel, c'est les vacances. Hein.
Il faut y aller, ma chérie. Et donc, elle y va, quoi, et en fin de compte, bonne tant bien avec lui à tous les niveaux, et il est charmant, gentil, attentionné, il la supporte, c'est déjà énorme. Et donc, leur différence, on se rend bien compte que ça se passe, hein, jusqu'au moment où, évidemment, Lolo rentre dans l'histoire, où là, très vite, il va utiliser les faiblesses des deux, d'ailleurs, leurs insécurités, etc., font tous les sociopathes. C'est-à-dire utiliser toutes les fragilités des autres personnages pour détruire leur histoire d'amour. Surtout, il veut sa maman pour lui, tout ça. Mais c'est bien que c'est un personnage, c'est même pas Oedipe, encore moins humain que l'Oedipe qui, quelque part, a quelque chose de passionnel et de quelque part de lyrique. Lui, sa passion pour sa mère n'est que des... Parce que d'une certaine manière, la plus personne... quelque part, il se peut d'elle, quoi. C'est-à-dire que c'est encore plus, d'une certaine manière, c'est plus moderne qu'un Oedipe traditionnel, puisqu'il y a ce côté aussi, quelque part, il n'y a pas de passion, c'est plus quelque chose de froid et que passionnel, comme le serait un Oedipe, quoi, par exemple. Il n'est pas amoureux de sa mère. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus pervers que ça, d'une certaine, parce qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas de l'amour, c'est quelque chose d'égoïste complètement.
Quelque chose qui est intéressant dans le film, c'est que vous auriez pu assez facilement tomber dans les clichés du provincial qui monte à Paris. Bon, il y a quelques références du provincial qui monte à Paris, mais vous tombez pas dans les gros clichés. Ça a été compliqué de surfer cette ligne sans forcément tomber dans le cliché.
D'un côté ou de l'autre. Non, parce que je voulais pas que ce soit une caricature, c'est-à-dire que des fois, il y a une tendance, c'est vrai, qu'il aurait pu s'habiller en costard Nevis ou en truc de plouc total. On peut pas tomber là-dedans parce que sinon ça a déjà été fait. Puis en plus, on rentre dans le même film. Quand il va à la fête, il a un blouson de cuir. C'est-à-dire que si c'était un autre mec qui portait, ça serait peut-être très bien. Donc c'est ça qui est drôle. Enfin, pour moi, c'est toujours trouver la limite entre réalisme et farce, quoi. Mais quand ça devient difficile à... Même si des fois je passe un tout petit peu, mais pas forcément sur le rôle de Jean-René. C'est-à-dire, c'est un naïf, mais c'est pas un abruti. C'est un provincial, mais c'est pas un débile, quoi. Je veux dire.
Plouc.
Je veux dire, c'est pas. Et puis, je dis, l'autre le traite comme un débile, hideux. Il dit qu'il est, que s'il faisait des mômes, ce serait
catastrophe,
etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il est pas hideux, il est pas, il est pas débile, il est pas ci, il est pas ça. Donc c'est. Sinon, je pense que je serais tombée dans un truc qui m'aurait pas plu, je pense.
Ouais.
Parce que j'ai trop les caricatures, quoi. Je trouve que c'est bien de trouver ce qui est juste, quand même. Je veux dire, les chaussettes dans les sandales, j'en ai vu même dans les grandes villes, quoi. Donc, c'est pas...
C'est clair.
Enfin, généralement, mais...
On en voit même en Australie, je vous dirais. Donc,
c'est... On en voit même en Australie. C'est pas genre... C'est juste que l'âge d'Ariane et Violette sont dans la mode. Elles ont des côtés comme ça.
Si vous avez écrit le rôle d'Ariane pour Karine Viard, le rôle pour Danny Boud, il était aussi écrit dès le départ pour lui?
Écoutez, en fait, oui, vraiment. Quand j'écris le scénario, non, j'avais pensé à lui parce qu'il dégage un truc à l'écran qui me plaît beaucoup, d'ailleurs, au résultat surtout. Et c'est qu'il y a quelque chose chez lui d'assez naïf. Je pense que Danny, il a beaucoup de succès. Je pense que c'est un très bon businessman. C'est aussi un mec très doué, etc. Mais je pense qu'il a quelque chose de l'enfance qui n'est pas encore complètement parti. Très, très agréable, je trouve, à l'image. Et quelque part, c'était essentiel pour faire ce personnage de Jean-René, quoi. Il a côté enfantin et en même temps, il a un côté très sain. C'est-à-dire que je pouvais pas avoir quelqu'un qui est trop sombre, quoi. Il est très lunaire. Enfin, non, pas lunaire, très solaire. Et je pouvais pas avoir quelqu'un de lunaire. Donc, c'est justement ce que j'ai aimé tout de suite, et en pensant à lui, c'est que le personnage de Jean-René, c'est un personnage solaire. Côté solaire, justement, au final, gagne. Parce que, par le côté négatif, au final, ça tourne en rond, quelque chose qui fonctionne pas chez les gens qui détruisent, quoi. Mmh. Parce qu'au final, la destruction n'amène rien, quoi.
Nous, on l'avait vu dans l'émission d'Annie Boone, et c'est vrai qu'on en avait conclu qu'il était à la fois très bankable, mais aussi très lovable.
Oui. Non, parce que pourquoi il a accepté le film, il l'a lu. Je pense qu'il a compris que le scénario, je l'ai écrit vraiment pour lui. Que moi, c'est tout une histoire de... C'est mon film, puisque le film, je l'ai financé complètement indépendamment de lui. C'est-à-dire que je l'ai eu après le financement du film. C'était pas du tout fait mon film comme ça je pouvoir le financer. Ça a jamais été. C'est-à-dire que c'était vraiment pour lui, quoi. J'aime bien ce qu'il dégage à l'image. En plus, c'est un comique génial parce qu'il y a des scènes, je pense que personne d'autre aurait pu les faire, de confusion quand il est face à son ordinateur ou part en couille, etc. Je pense qu'il a amené quelque chose de super là que personne n'aurait pu amener, quoi. Voilà.
Si on parle de vous, après, enfin maintenant, vous habitez maintenant à Los Angeles, vous êtes une actrice française naturalisée américaine. Vous êtes tombée toute petite hein, dans les arts parce que votre papa était directeur de théâtre, votre maman était actrice.
Mon papa est toujours acteur. Ma maman a été actrice toute sa vie. Mon père acteur et metteur en scène de théâtre aussi. Donc oui, j'étais dedans depuis tout le temps, quoi.
D'accord, c'est votre vie. Et vous avez été découverte par Jean-Luc Godard en 1985.
Voilà, en 84, en fait, pour être plus précis. Septembre 84, j'ai rencontré pour aller tourner Détective.
Cette vie d'actrice, c'était vraiment quelque chose que vous rêviez depuis tout petit?
Pas particulièrement. En fait, j'avoue que j'ai commencé à écrire assez tôt. Mes premières petites histoires courtes, surtout de science faite bizarrement. J'ai rencontré Godard, j'ai très vite compris que ce serait très difficile pour moi de devenir réalisatrice. À l'époque, il y avait très peu de femmes réalisatrices, pour moi à ce niveau-là, tout de suite en tout cas. Donc j'ai très vite compris que ce serait probablement la meilleure façon de passer d'un truc à l'autre. Bon, ça m'a mis après 20 ans parce que j'ai... Je dis toujours ce qui est la réalité. J'ai écrit mon premier film à 16 ans. J'ai tourné mon premier film à 36. Donc, ça m'a mis 20 ans. J'ai écrit beaucoup de scénarios entre-temps qui ne sont pas faits. Et voilà, quoi. Ça a été voilà, une longue... Ce n'est pas fini, puisque c'est toujours compliqué à monter les films. Enfin, c'est un peu plus facile, évidemment. Film, mais c'est jamais simple, quoi. Mais pour personne. Hein, mais...
C'était un plaisir de vous parler. Il y avait un petit moment que je voulais vous parler, d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est un petit tic dans ma liste des gens que je voulais interviewer dans ma carrière de journaliste.
Ah, très bien. Bon, super.
Ben,
merci.
Merci, Julie Delpy. Le film, c'est Lolo.
Bonne
et c'est présent.
Bonne continuation.
Merci bien. Au revoir.
Au revoir.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon, et même après, je t'aimerai.
et même après, je t'aimerai, la super géniale, super méga géniale chanson d'Oshi en ce samedi sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.